peu habitué à lire l'apôtre Paul, vous avez noté quelque chose d'un peu déroutant. Peut-être pas la seule chose déroutante d'ailleurs quand on lit Paul. C'est qu'il ouvre des parenthèses. Alors généralement, il a la bonne habitude de les fermer au bout de quelques versets, ce qui fait qu'on peut assez vite reprendre le fil du discours. Mais il se trouve que parfois, les parenthèses courent sur plusieurs chapitres. Et c'est le cas dans la deuxième aux Corinthiens. Vous avez effectivement dans cette épître une très longue parenthèse qui va commencer... Alors, je ne suis pas sur la bonne... Voilà. Qui va commencer au chapitre 2, verset 12, et qui va se terminer au chapitre 7, verset 4. Ça commence au chapitre 2, verset 13. Mais voilà, avant la parenthèse, il y a « Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. » Et puis là, il y a un grand développement, très grand développement, puisque ça a duré pendant plusieurs chapitres. Et puis au chapitre 7, « Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. » Donc vous retrouvez un peu les mêmes thèmes que j'ai mis un peu en évidence ici. En caractère gras, nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans, mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus nous a encouragés par l'arrivée de Tite. Alors naturellement, les commentateurs se sont interrogés sur cette fameuse parenthèse, on dit mais pourquoi l'apôtre Paul quand même utilise un tel procédé. Certains y ont vu d'ailleurs une de ces fameuses lettres perdues, se sont dit bah, c'est un compilateur ultérieur qui aurait mis à l'intérieur de cette lettre, c'est une de ces lettres perdues. Seulement, on ne voit pas trop pourquoi, et puis cet usage n'est pas tout à fait attesté dans l'Antiquité. Je pense qu'il vaut mieux y voir effectivement un procédé rhétorique. C'est-à-dire qu'en ouvrant cette parenthèse, ce que Paul cherche à faire, ce n'est pas tellement mettre entre parenthèses quelque chose qui ne serait pas très important, hein, comme souvent nous on le fait quand on écrit entre parenthèses, on ne veut pas oublier ou précise un truc qui est secondaire, mais c'est justement pour attirer notre attention. Donc c'est mettre en évidence, plus que mettre entre parenthèses, attirer notre attention sur un message qui sera un message essentiel. Et je rappelle un peu ce que j'ai dit hier, hein, si effectivement, en écrivant cette lettre, l'intention de l'auteur de Paul est de préparer sa venue qui sera d'ordre disciplinaire, mais aussi d'enseigner sur la libéralité, l'apôtre Paul veut surtout enseigner les chrétiens de Corinthe, les exhorter à ne pas se laisser éblouir par ce qui impressionne, mais à se laisser transformer à l'image du Christ, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit, comme il le dit au chapitre 3, verset 18. Donc nous sommes en quelque sorte invités, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, ce matin et ces prochains jours, hein, nous sommes invités à entrer dans cette parenthèse avec un esprit d'écoute. Pas toujours facile d'écouter. Je pense que c'est plus facile de faire ce que je fais que ce que vous faites vous. C'est plus facile de parler. Généralement, on est prompt à parler, hein, comme dit Jacques, hein, mais plus difficile à écouter. Entrer dans cette parenthèse un peu comme on entrerait dans une pièce. Une pièce qu'on ne connaît pas. Une pièce où il va y avoir des choses assez surprenantes, des images, des exemples, des choses qui vont nous interpeller, pour pouvoir vraiment entendre ce que, non seulement Paul nous dit, mais puisqu'il est inspiré, ce que Dieu nous dit au travers de l'apôtre Paul. Alors, de quoi est-il question dans cette parenthèse? On ne va naturellement pas tout voir, on n'aura pas le temps en quelques jours de voir tous ces chapitres. On va s'arrêter sur certains aspects, mais je vais quand même mentionner un peu l'essentiel de ce qu'il y a brièvement pour situer les choses un peu dans leur contexte. D'abord, au chapitre 3, on ne va pas trop s'y arrêter, on verra juste un peu les premiers versets aujourd'hui. L'apôtre Paul se compare un peu à Moïse et d'une certaine manière, il dit « Je suis le second Moïse ». Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il interpelle en particulier les faux docteurs, les faux apôtres, pour leur dire que la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, enfin, il dit ça aux Corinthiens, ne passe pas par l'enseignement de ces faux docteurs qui, sans doute, cherche à réintroduire plus ou moins les observances de la loi de Moïse, mais ça passe par lui, Paul, et par son évangile qui nous libère des prescriptions de la loi de l'Ancien Testament, de toutes ces lourdeurs de la loi de l'Ancien Testament. Et puis au chapitre 4, il va y avoir cette image sur laquelle on va revenir. Paul se compare à un vase d'argile qui contient le trésor de l'Évangile. Il va parler aussi de ses tribulations. À la fin du chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, il va y avoir un long développement qu'on peut découper en, en deux temps sur l'espérance, la persévérance dans l'espérance, et puis aussi sur le ministère de la réconciliation. C'est un passage au chapitre 5, je pense qu'on connaît bien. L'apôtre Paul se compare à un ambassadeur. Il dit, voilà, je suis porteur de ce ministère de la réconciliation. Et puis, il va y avoir enfin, et là, on aura l'occasion de s'y arrêter, un développement sur des exhortations très pratiques, très concrètes, parce que Paul se veut aussi être pratique, concrète, mais aussi très directe. Hein, on verra où l'apôtre Paul nous encourage à la pureté, parce que nous sommes le temple de Dieu, ayant été réconciliés avec Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes devenus, et on s'y arrêtera, nous sommes devenus le temple de Dieu. Alors entrons dans cette parenthèse, oui, parenthèse importante, je voulais quand même ici le mentionner, parce que, justement, si on pense que ces chapitres ne sont que parenthèse, donc quelque chose d'un peu secondaire, comme certains parfois le disent, certains commentateurs, je pense qu'on passe vraiment à côté hein, du message central que Paul cherche à nous dire ici, parce que c'est dans ces chapitres que bat le cœur de l'Épître. Si vous retirez ces chapitres, en fait, de l'Épître aux Corinthiens, de la deuxième, hein, aux Corinthiens, vous retirez en quelque sorte le cœur de l'Épître. Et c'est vrai que Paul va parler aux Corinthiens de cœur à cœur. Hein, il parle, il se veut très proche, et à la fin, juste quand il termine cette parenthèse, il dit « Faites-nous une place dans votre cœur ». Et c'est vraiment là où on voit que, voilà, je l'ai dit hier, mais Paul connaît bien cette Église, il veut vraiment une relation à cœur ouvert avec eux, et il ne veut surtout pas de masque. Hein, c'est pour ça qu'il se montre lui-même assez vulnérable tout au long de cette épître. Donc, je vais lire les chapitres, les versets 14 du chapitre 2 jusqu'au verset, je m'arrêterai au verset 2 finalement du chapitre 3. Et je vais surtout commenter les premiers versets et puis on aura l'occasion aussi de voir d'autres versets dans cette épître. 2 Corinthiens 2, verset 14. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec le Christ que nous annonçons la parole. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Alors, l'apôtre Paul, quand il commence cette fameuse parenthèse, il commence par une image. Une image qui, comme ça, pour nous, lecteurs contemporains, peut passer un peu inaperçue, mais qui a dû quand même pas mal surprendre les auteurs, les Corinthiens. C'est l'image du cortège triomphal. Je ne puis que remercier Dieu, il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. Et cette image fait référence à une pratique romaine, c'est une image gréco-romaine, où le général victorieux défilait à Rome lors d'une célébration triomphale, entraînant derrière lui, dans son cortège triomphal, les vaincus, captifs, les chefs vaincus et leurs familles. Autrement dit, ce cortège n'est pas composé de vainqueurs, mais il est composé de vaincus. Ce sont les esclaves, Ce sont les esclaves qui ont été vaincus et qui, pour la plupart, sont destinés à mourir. Et pas de la meilleure manière qui soit. À Rome, on ne faisait pas dans la dentelle à l'époque. Hein. Alors, en utilisant cette image et en se l'appliquant à lui-même, Paul se reconnaît comme un vaincu, et non pas comme un vainqueur. Il se reconnaît comme un vaincu du Christ. Un vaincu que le Christ, tel un général victorieux, traîne derrière lui. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, Paul ouvre cette parenthèse en se décrivant comme un esclave vaincu par Jésus-Christ, conduit à la mort pour révéler la gloire de celui qui a triomphé de lui. Ce n'est pas tout à fait l'image que les Corinthiens avaient sans doute d'un apôtre. Ils avaient sans doute, et souvenez-vous un peu de ce que j'ai dit hier, hein, ils étaient impressionnés par ce qui brille, par ce qui est fort. Donc ils avaient plutôt l'image d'un apôtre triomphant. D'ailleurs aujourd'hui encore, certaines versions voudraient écarter cette idée que Paul ici se présente comme un vaincu. Et notamment, si vous lisez certaines versions anciennes, la seconde dans sa version ancienne dit ceci, c'est le sens dit factitif, hein, que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Et là, ça insiste beaucoup sur le côté, voilà, je suis fort, et puis Dieu nous fait triompher, alors allez derrière moi, je triomphe. Mais ce n'est pas le sens que Paul veut donner ici à ses propos. Comme le fait remarquer, je crois justement ici, un commentateur, bien qu'étrange à première vue, et c'est vrai que ça surprend, cette interprétation cadre bien mieux, l'interprétation du vaincu, cadre bien mieux avec ce que Paul dit tout au long de l'Épître et aussi de son apostolat. Ça correspond bien effectivement à ce qui est dit tout au long de l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, mais ça correspond aussi à l'utilisation que Paul fait de cette même expression ailleurs. Si on a une difficulté avec un texte biblique, une expression, c'est toujours bien d'aller voir dans le contexte immédiat, mais aussi dans le contexte un peu plus large. Il se trouve que Paul utilise cette autre expression, notamment dans Colossiens 2, verset 15, quand il dit « Là, il a désarmé tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il a, alors il n'y a pas tout le texte ici, triomphé d'elle par la croix. » Et ici, on a la même expression, il les a traînés dans son cortège triomphal. Dans le contexte de Colossiens, on comprend bien que les puissances et les autorités ne sont pas celles qui triomphent. Ce sont celles qui ont triomphé, hein, c'est-à-dire qui ont été vaincues par le Christ à la croix. Paul, pour revenir à notre texte, n'est donc pas en train de dire qu'il participe au triomphe du Christ dans le sens où il serait devenu un héros. Regardez-moi, je suis le plus fort. Un héros que rien ni personne ne peut atteindre. Mais, et sans doute c'est ce que font ici les faux docteurs, hein, qui, comme il le dit dans le passage de 2 Corinthiens 2, qui s'accommodent, qui accommodent la parole pour en tirer profit, qui font grande impression avec leurs lettres de recommandation. Non, l'apôtre suggère plutôt qu'il a été vaincu par le Christ et qu'il est donc devenu l'esclave du Christ. Et que c'est précisément parce qu'il a été vaincu par le Christ, parce qu'il est devenu son esclave, qu'il participe au triomphe du Christ. Il y participe non pas dans un statut de conquérant, mais il y participe dans le statut du vaincu, la place du vaincu. Et c'est quelque chose qui, sans doute, devrait nous préserver de tout triomphalisme. Mais alors, me direz-vous, de quoi est-ce que... qu'est-ce qui a été vaincu chez Paul ? Qu'est-ce qui a eu besoin d'être vaincu chez Paul ? Alors, Paul le dit à plusieurs endroits, sans doute, de son épître, de ses épîtres, mais il y a sans doute une épître où il le dit de manière plus nette, où il va donner son témoignage par rapport à ce qui a été vaincu dans sa vie. Et puisqu'on va passer quand même quelques jours avec Paul, peut-être que certains connaissent moins bien Paul que d'autres, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce témoignage qui se trouve dans l'épître aux Philippiens. Alors, je ne vais pas trop commenter ce texte, mais il nous sert ici un peu d'illustration pour cette image du vaincu. Paul a été vaincu. Mais qu'est-ce qui a été vaincu dans sa vie ? bien, Paul le dit assez nettement aux chrétiens de Philippe, qu'il connaît aussi très bien. Il a créé l'église de Philippe, il entretient avec cette église une relation particulièrement proche. Et il leur dit, et pourtant je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain à cause du Christ. Je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Autrement dit, en suivant le Christ ou en le rencontrant personnellement sur le chemin de Damas, quand il a fait cette rencontre personnelle avec le ressuscité, eh bien Paul a accepté de perdre tout ce qui, jusque-là, faisait sa renommée, sa fierté, son identité, sa raison d'être, sa raison de vivre. Il considère tout ça comme une perte, pouvant être mis au rebut. Le terme est très fort en grec, hein, c'est vraiment le détritus, c'est même le terme qu'on utilisait pour les excréments. C'est vrai que ça exprime son dégoût. Et pourtant, c'est ce qui, pour un juif, un pharisien, était le nec plus ultra. Ben, tout ça, il les considère comme une perte. Pourquoi ? Parce que Christ a triomphé de sa propre justice. Christ a triomphé de son passé, de tout ce qui pouvait, en quelque sorte, le sortir du lot et lui montrer, lui dire, lui susurrer aux oreilles, « Moi, je suis quelqu'un de bien. » C'est un peu, vous savez, cette petite voix, et là, j'essaye de l'appliquer un peu à nous-mêmes, hein, qui susurre à notre oreille, de manière très inconsciente. Je suis bien, je suis né dans une famille chrétienne. Je vais à l'église tous les dimanches. Je participe même au GPU. Je suis bien. » Facile de tomber dans cette manière de penser, où notre identité repose sur nos origines, sur ce que je fais. Et c'est vrai que c'est bien tout ça. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est que ce n'est pas ce qui compte pour lui. Ce qui compte pour lui, ça n'est plus son origine, ça n'est plus ce qu'il fait ou ce qu'il a fait et qu'il a considéré comme étant bien, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Et il le dit à deux reprises dans le texte que l'on a lu, dans l'union avec le Christ. C'est cette dépendance au Christ qui compte, cette relation personnelle qu'il entretient avec Dieu. Et ça, c'était vraiment loin d'être le cas de ces faux apôtres, de ces pseudo-apôtres ou super-apôtres, comme il les appellera un peu par dérision dans les chapitres 10 à 13. Parce que ces super-apôtres, eux, ils préfèrent se la montrer. Ils préfèrent être dans l'apparence que dans la relation personnelle avec Dieu. Et Paul va chercher à s'en démarquer, notamment par cette image hein, du cortège triomphal. Et au verset 17, quand il dit « En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit, c'est avec des intentions pures de la part de Dieu dans l'union avec le Christ que nous annonçons la parole. » Donc vous voyez, il y a d'un côté ceux qui cherchent à tirer profit pour eux-mêmes et finalement qui font un usage égoïste de leur ministère et de la parole, et puis ceux qui, comme Paul, dans l'union avec le Christ. C'est un peu, ça reprend ce qu'il a dit dans Philippiens, dans cette relation personnelle, dans cette dépendance avec le Christ, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh bien, il cherche à annoncer la parole avec fidélité. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ces faux docteurs, notamment quand on abordera vendredi les chapitres 10 à 13, mais j'aimerais un peu m'y arrêter ici, parce que c'est intéressant pour notre sujet, pour savoir ce qui a besoin aussi d'être vaincu, peut-être aussi dans notre vie. L'apôtre Paul en parle notamment au chapitre 10. Et voici ce qu'il dit. « Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. » On note un peu l'ironie derrière, c'est aussi un procédé rhétorique. « La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. et ils se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie ? On voit bien que le principal problème de ces faux docteurs, de ces super apôtres, c'est qu'ils se prennent eux-mêmes pour leur propre mesure. Ils se recommandent eux-mêmes plutôt que d'être recommandés par Dieu. Ils placent leur fierté en eux-mêmes plutôt que de la placer dans le Christ. Ce qui compte pour eux, c'est ce qui les valorise, ce qui impressionne les autres ou ce par quoi ils vont pouvoir impressionner les autres, attirer l'attention des autres. C'est ça ce qui compte pour eux, bien plus que leur relation personnelle avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils accordent tant d'importance aux lettres de recommandation que l'apôtre Paul mentionne au début du chapitre 3. On l'a lu. Pourquoi ? Eh bien parce que ça les valorise, ça les met en avant. C'est important pour eux, et ça semble même être assez important pour les chrétiens de Corinthe, qui eux sont éblouis par ces lettres de recommandation. Oh, ce sont des gens bien qui viennent, c'est pas n'importe qui. N'est-ce pas au fond très humain de fonder sa vie sur ce qui nous valorise ? Vous comme moi, on est fait de la même pâte. Et c'est naturel, c'est humain. Réussir, obtenir un diplôme, avoir une bonne situation, être reconnu, avoir de la notoriété, pouvoir gagner de l'argent, en tout cas suffisamment d'argent pour ne pas se retrouver dans une situation de précarité. Après tout, il n'y a rien à reprocher là-dedans. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Pas plus d'ailleurs que le principe des lettres de recommandation. On le pratique même au GBU d'ailleurs de cette manière. Quand on veut embaucher quelqu'un, on mène une petite enquête pour savoir de qui il s'agit. Donc tout ça n'est pas mauvais en soi, si on y réfléchit bien. D'ailleurs dans la Bible, vous avez des hommes qui ont particulièrement bien réussi et qui étaient même très riches. Abraham, Job, on dit pauvre comme Job, mais enfin il était très riche au départ. En tout cas. Salomon, mal terminé, mais... On ne peut pas dire que ça s'est... il a quand même réussi d'une certaine manière, puis il y en a d'autres. Être fidèle à Dieu, ça ne veut pas dire être sans ambition, pauvre, misérable, aveugle et nu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vision biblique des choses. Mais, car il y a un mais. La question est, où mets-tu ta fierté ? Ou pour le dire autrement, de quoi te glorifies-tu ? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que ce sont tes forces, tes capacités, ta réussite sociale, ce qui te permet, permet aux autres de voir que tu as réussi ? Ou est-ce que c'est le fait de connaître Dieu, d'être dépendant de lui, de te rapprocher chaque jour davantage de lui ? Voici ce que Paul écrit un peu plus loin, toujours au chapitre 10, par rapport à ces chrétiens de Corinthe. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture, et là il cite le prophète Jérémie, ainsi celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, là il fait une référence directe au faux docteur, mais celui que le Seigneur recommande. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois justement qu'il interpelle les chrétiens de Corinthe et qu'il les interroge à partir de cette parole de l'Écriture du prophète Jérémie. Ce matin, Olivier a choisi ce texte en introduction du temps de méditation. Effectivement, à la fin du chapitre 1er, il reprend mot pour mot la même exhortation, il fait référence à la même citation du prophète Jérémie quand il dit « Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » Alors si l'apôtre Paul prend soin de répéter exactement la même chose au même destinataire deux fois de suite, c'est que quand même il y a quelque chose d'important. Et puis c'est surtout que ce qu'il est en train de dire, ils ne l'ont pas encore tout à fait compris. Vous savez que le béaba de la pédagogie, c'est de répéter. si on va enfoncer un clou et puis qu'on donne un grand coup, parfois on risque de péter ce sur quoi on veut enfoncer le clou. Hein. Mais généralement, il vaut mieux faire des petits coups et puis répéter, et puis ça finit par rentrer. C'est un peu ce que fait Paul ici, finalement. Il répète un peu les choses, et puis il espère que par l'Esprit de Dieu, ça va vraiment pénétrer dans les consciences de ceux à qui il s'adresse. Alors, puisque Paul fait référence à la même prophétie, il y a un bon principe, et vous êtes amené aussi à le faire ici, hein, dans la méthode Ouya, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que Jérémie, finalement, est en train de nous dire par cette prophétie? Alors, si on regarde un peu plus le texte de Jérémie, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des choses intéressantes. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. Alors, qu'est-ce que le prophète est en train de dénoncer par la... qu'est-ce que Dieu est en train de dénoncer par la bouche, ici, de son prophète? La sagesse? La force? La richesse? Je ne pense pas. Parce que tout ça, ce sont des bienfaits de Dieu. Pas des choses mauvaises. Ce sont des bienfaits de Dieu. Ce que Dieu dénonce ici, c'est que le peuple d'Israël s'est approprié pour lui-même ses richesses, ses bienfaits, au point de se glorifier de, et je l'ai mis, je crois, un peu en caractère gras, de sa sagesse, de sa vigueur, de sa richesse. Autrement dit, c'est devenu leur chose, leur bien, leur propriété, leur fierté, leur raison de vivre. Ils ne considèrent plus ces cadeaux que Dieu leur a faits comme des bienfaits qui dépendent de Dieu. Ils se les sont appropriés. Ils ont oublié le donateur qui est à l'origine de la sagesse, de la santé, de la richesse. Et c'est pourtant bien de cela dont ils devraient se glorifier. Non pas d'être devenu, je dirais, d'être sage, riche, etc. Mais ils devraient se glorifier de ce que Dieu leur a donné, d'avoir l'intelligence de le connaître, lui, le Seigneur, qui agit avec bienveillance et qui est juste. Nous ne sommes pas à l'abri de la tentation ici des Israélites, ni des Corinthiens. Parce que le péché qui agit en nous tous, personne n'est à l'abri du péché, fait qu'on a toujours tendance à s'approprier ce que Dieu nous donne et à considérer ce que Dieu nous donne comme étant finalement mien. Et on ne le considère plus dans cette relation avec Dieu. De sorte que ça va devenir pour nous, parfois même comme une idole, quelque chose qui va devenir le centre de notre vie. Dieu nous a fait quelque chose de bon et ça devient le centre de notre vie. Dieu nous a donné un travail et ça devient le centre de notre vie. Toute notre préoccupation, tout est comme aspiré par ce que Dieu nous a donné. Ça peut être notre intelligence qui va nous conduire à réussir, notre vigueur, pour reprendre un peu ici les propos de Jérémie qui montre à tous qu'on est fort. Notre richesse matérielle qui montre qu'on a réussi. Le problème vient le jour où tel de ses bienfaits montre des faiblesses. Et ça vient de tout tard. Où tel de ses bienfaits montre qu'il n'est pas tout puissant. Ou se montre parfois un peu comme un tyran. Parce qu'alors c'est mon identité qui est directement menacée. Parce que j'ai mis mon identité dans ce cadeau que Dieu m'a fait, au lieu de le mettre dans Dieu lui-même et dans la relation que j'entretiens avec Dieu. La seule manière d'éviter ce piège dans lequel nous pouvons tous tomber, même le chrétien, j'allais dire, qui connaît Dieu depuis son enfance, qui va à l'église, qui sert Dieu au GBU. Le seul moyen, c'est d'accepter la situation du vaincu. Cette situation du vaincu, c'est-à-dire d'accepter d'être dans le cortège triomphal du Christ. C'est lui la victoire. Il a triomphé de ce qui, dans ma vie, m'empêchait finalement de vivre pleinement la vie que Dieu voulait pour moi. Car alors on réalise qu'on n'a plus rien à prouver, mais qu'on a tout à recevoir. Ce cortège des vaincus, et je reviens ici à l'image du début, ce cortège des vaincus ne rassemble pas des vainqueurs, fiers d'eux-mêmes, mais des vaincus fiers du Christ. Christ qui connaît nos faiblesses. Alors c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple d'accepter la position du vaincu. On préférerait occuper la position du vainqueur. Notre orgueil, notre fierté, il en est question dans ces passages, notre ego, sont autant d'obstacles. Et nul doute que c'était aussi le cas pour les Corinthiens qui, eux, aimaient ce qui brillait. Ils aimaient l'autopromotion, ils aimaient se mettre en avant. Ils étaient assez modernes, hein, les Corinthiens. C'est vrai que c'est pas simple. Mais attention. Le vaincu dans l'histoire, ce n'est pas le loser. C'est pas le perdant. Et c'est tout le paradoxe de l'Évangile. La grâce, c'est un vrai paradoxe. Le vaincu, c'est le vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'il participe au triomphe, car en triomphant du mal qui nous entraînait à la dérive, le Christ nous a rendus participants de sa victoire. Et quelle victoire ! C'est pas uniquement la victoire sur le mal, c'est la victoire sur la mort. Une victoire extraordinaire. Le jour de Pâques, le lendemain de Pâques, c'est ce moment où l'histoire a complètement basculé. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Saul est devenu Paul. Il a rencontré le ressuscité. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans sa vie. Cette image s'applique donc aussi à nous et devrait nous libérer de tout triomphalisme, surtout si nous voulons servir le Seigneur, comme Paul cherchait à le faire, comme nous cherchons à le faire sur les campus, comme tout chrétien cherche à le faire dans son voisinage. Dieu ne nous demande pas d'être, je dirais, de porter des masques, hein, de prétendre être celui que je ne suis pas. Dieu nous demande d'être nous-mêmes, dans cette vulnérabilité de tous ceux qui sont dans ce cortège triomphal. Être nous-mêmes, parce que autour de moi, si je regarde bien dans l'Église, finalement, si on était vraiment nous-mêmes, on s'apercevrait qu'il n'y a que des vaincus. Et si on est vainqueur, c'est grâce à Christ. Et donc je peux m'approcher de Dieu en lui disant, là il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Non pas parce que voilà, Dieu dans ma vie aurait dû avoir tout réglé d'un coup, mais parce que je sais que la victoire, ce n'est pas la mienne. C'est celle que Christ a remportée une fois pour toutes à la croix. Alors c'est vrai qu'on aimerait toujours se retrouver le lendemain de Pâques. Ça c'est le beau moment de l'année. On aimerait toujours se retrouver dans ce jour où on a l'impression qu'on est déjà au ciel, on a triomphé. Mais il se trouve que pour que Pâques ait lieu, il faut la croix. Et cette image du cortège triomphal nous rappelle que la victoire sur notre vieil homme, j'utilise ici une expression de Paul, notre ancienne nature, passe par la croix, là où le mal est défait. Et c'est dans cette attitude d'humilité, de dépendance, d'appartenance au Christ que se vit la dimension triomphale du royaume de Dieu dans l'union avec Christ, hein, qui apparaît donc à la fois au verset 14 et au verset 17 du passage que nous avons lu. C'est là et nulle part ailleurs où le vaincu est vainqueur. Le but de la vie chrétienne, c'est d'avoir une relation intime, personnelle avec Dieu. Et c'est seulement à partir de là que le Seigneur pourra se servir de nous, comme il l'a fait pour Paul, pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Et là, on passe d'une image gréco-romaine à une image très juive, parce que ici, c'est l'image des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le parfum du sacrifice qui parvient à l'Éternel évoque un cœur sincère de la part de l'officiant, un sacrifice que Dieu agrée. À partir du moment où mon service pour Dieu ne repose pas sur moi-même pour satisfaire mes intérêts personnels, pour me mettre en avant, mais qu'il repose sur Dieu pour renforcer ma relation avec Dieu, à partir de ce moment-là, oui, mon service agrée à Dieu. Il est agréé par Dieu. Nous devenons alors vraiment disponibles pour servir Dieu, parce qu'on ne cherche plus à se mettre en avant, et ça c'est très naturel. C'est souvent ce qui nous épuise. On cherche à mettre Christ en avant. On ne cherche plus à se faire valoir, mais à le faire valoir lui, et son évangile. Aussi, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les mène à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche ? L'enjeu est énorme. Le salut, la perdition, la mort, la vie. Il n'y a pas de troisième voie. L'annonce de l'Évangile place nos contemporains devant un choix radical. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs du même Évangile, parce qu'il n'a pas changé. Et Dieu ne change pas. Il utilise le même procédé, c'est-à-dire qu'il a utilisé Paul, et aujourd'hui, il nous utilise, nous, pour annoncer l'Évangile. Alors, je termine par là, la question que Paul pose ici. Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche ? Sûrement pas celui qui pense qu'il pourra y arriver tout seul en se montrant fort. Dieu cherche des serviteurs disponibles, sincères, prêts à s'engager pour lui et donc prêts aussi à se poser les bonnes questions. Et en application, j'aimerais vous laisser, il me reste 3 minutes, 3 questions. De quoi est-ce que je me glorifie ? Qu'est-ce qui est au centre de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apporter à la croix pour laisser Christ, pour en laisser Christ devenir le maître ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner ? Une petite minute de méditation silencieuse dans notre cœur sur ces questions. Et je terminerai par la prière. Seigneur, nous sommes devant toi tels que nous sommes, et tu nous aimes tels que nous sommes. Merci parce que tu ne nous demandes pas de porter des masques, de paraître fort, mais tu nous demandes simplement d'être nous-mêmes, sachant que toi, tu as déjà tout accompli. Merci d'avoir triomphé de ce qui, dans notre vie, nous séparait de toi. Et merci pour tous les bienfaits que tu nous renouvelles jour après jour. Préserve-nous, Seigneur, d'en faire une idole, d'en faire quelque chose que nous considérerions comme étant notre propriété. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, tout au long de cette journée, de cette nouvelle année académique qui va commencer, mais aussi tout au long de notre vie, de ne pas oublier que tout cela vient de toi. C'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends, en toutes circonstances. Donne-nous, Seigneur, de t'exprimer notre reconnaissance et surtout de puiser notre force en toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen.